Bienvenue à la première séance de 2018 GenderMed Atelier du Genre. Et puisque nous inscrivions plusieurs séances ou ateliers dans la mesure du possible dans les JIS Genre Jeudi de Genre, il y aura Karine Lambert avec Jeff M. Jécry également qui inscrit plusieurs séances, sinon toutes les séances d'ailleurs cette année, de GFM, j'écris, dans le cadre des Jeudis du Genre. Et donc c'est sur le plan national aussi que nous tenions cet atelier, cette séance aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui nous avons deux invités, moi-même également, je prendrai la parole. Nous avions organisé cette séance autour de la question de genre, droit et genre, loi et droit de propriété. Tout, au Moyen-Orient, mais la question va au-delà du Moyen-Orient, comme je vais dire. Je vais parler pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, je passe la parole à Moussa Sfour, Université de Beyrzeit, Palestine, et Sylvette Deneuf, Université de Tours, également membre de GenderMed. Qui prendra la suite avec plusieurs exemples, plusieurs perspectives. Donc d'emblée, je précise que genre, loi et droit de propriété est le fruit en fait de deux programmes de recherche. Il y en a un qui a été initié et piloté par Fatih Atalehit, qui viendra une autre fois dans l'année, invité par GenderMed, plus tard dans l'année 2018, qui avait répondu à un appel de JIS Genre, c'était 2015, c'était le premier appel, JIS Genre, sur un soutien de projet. Et elle avait proposé, avec moi, on a travaillé ensemble dans le cadre d'un séminaire à l'École des hautes études, elle avait proposé un travail sur 18 mois sur les questions de droit, des droits de propriété et genre. Donc c'était vraiment axé non seulement la possession de propriété, l'exploitation de propriété, mais l'encadrement législatif des droits de propriété. On ne sait pas toujours, on a bien vu avec nos études, ce n'est pas toujours du tout la même chose d'avoir un droit, que ce soit un droit législatif ou des fois aussi un droit coutumier, et une vraie exploitation, une vraie possession de propriété. Donc il y a souvent un grand décalage entre une législation droit de propriété, que ce soit femme, homme ou normalement, maintenant, sans genre, et sur le terrain. Il y a des choses vraiment très différentes. Donc, très rapidement, je vais juste présenter ces deux programmes, et ensuite, on ira vers des exemples. Donc, je l'ai dit déjà que je donne une introduction brève à ce thème qui sera exploité par la suite lors de l'année 2018. Ce sera suivi par deux présentations. Une présentation sur la Palestine qui s'insère dans un programme plus large dont je vais parler dans deux minutes. Et une autre présentation sur le même sujet en France contemporaine. L'autre présentation, je n'ai pas dit, ce sera 19e siècle, et cette présentation, par la suite de Sylvette, ce sera à nos jours. Donc, les deux numéros, les deux programmes qui ont abouti à la publication, d'autres sont en cours, mais la publication de deux numéros différents. Au premier lieu, je vais prendre le deuxième, même si j'ai projeté autrement, le deuxième qui s'appelle Cahier du genre. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été lancé par Fatih Atalehit, chercheuse au CNRS, au CRESPA de Paris. Et ceci tourne autour de l'idée des droits de propriété et des femmes. C'est un sens plus large, non seulement au monde musulman, mais un sens plus large. L'idée au départ, c'était de créer, poursuivre des recherches et ensuite créer un cadre comparatif, comparatiste. Puisque nous avons souvent des jugements Ou on va dire que dans une certaine partie du monde, les femmes vont avoir un certain accès aux propriétés, et dans une autre partie du monde, ce ne sera pas le cas. Mais le plus qu'on travaille, nous voyons que souvent les problèmes sont les mêmes sur le terrain, que les problèmes sont souvent les mêmes selon la période étudiée. Alors, ce deuxième projet, c'était sur 18 mois, genre, c'était dans le cadre de Jean Rogis. Je vais faire passer le numéro qui vient de sortir il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, en 2017. Les deux numéros sont parus 6 mois à l'intervalle l'un de l'autre. Donc, ce cahier de Jean, dans lequel sont publiées une dizaine d'études sur cette idée-là, depuis la France jusqu'au Maroc, en passant par la Turquie, des études différentes. Moi, je dirais que c'est peut-être plus théorique que le deuxième numéro que je présenterai tout à l'heure. Alors, ce numéro-là est en même temps le fruit de ce programme GIS de genre, mais c'est aussi le résultat de plusieurs présentations qui ont lieu en Angleterre. Donc, ça a été souvent fait en anglais et puis on l'avait fait traduire en français. Donc, dans deux ateliers en Angleterre, donc le premier qui s'appelle BRACE, qui est un peu l'équivalent, c'est une association où les gens, nous sommes partenaires maintenant, on va dire à moi, enfin membres, où les gens travaillent sur des questions de la jurisprudence musulmane. Et des propriétés, et le Coran, et des pratiques vestimentaires interdisciplinaires. Donc il y avait un atelier qui était présenté dans ce cadre-là, et un deuxième qui était présenté également en 2015, dans le cadre du BRISMES, c'est le British Society for Middle East Studies, qui, comme l'AFMAM, était autrefois ici en France. Donc, je vais le faire passer et vous pouvez regarder. Quand Fatira, je ne dis pas grand-chose là-dessus, parce que je préfère que ce soit Fatira qui en parle quand elle vient, puisque ça s'est lancé par elle et... même si j'ai travaillé avec elle, c'est elle qui avait conçu ce projet sur 18 mois. Par contre, le premier qui est ici, le GDRI du CNRS, donc c'est un groupement de recherche international, Fondation WACF, je peux dire beaucoup de choses, parce que c'est moi qui a lancé l'idée, et nous avions bien fonctionné sur 4 ans. On travaille encore ensemble, d'ailleurs. C'est un réseau qui a institutionnalisé les travaux déjà en cours par des chercheurs, des universitaires et des doctorants. Plusieurs thèses de doctorat ont été soutenues dans ce cadre-là. Donc, plusieurs ici à Aix-en-Provence, à l'Université d'Aix-Marseille. La prochaine soutenance aura lieu le 13 février. Il y a quelqu'un, une doctorante, Mounira Abdelharis Tachoun, qui a travaillé dans le cadre de ce GDRI. Alors, pour expliquer ce GDRI, excusez-moi, c'est en anglais, mais ce GDRI, c'est une fondation, sans aller dans tous les détails, je reste simplement avec le thème que nous traitions aujourd'hui, les droits de propriété, la loi, les droits de propriété et le genre. Mais pour dire deux minutes un mot vis-à-vis des fondations WACF, une fondation, tout le monde sait ce que c'est, une fondation en Europe ou aux États-Unis, en Amérique du Sud, dont une fondation est créée d'une part souvent pour protéger une propriété ou des propriétés, et surtout pour canaliser des revenus qui proviennent de ces propriétés-là, que ce soit immobilière, propriété agricole, etc. Des fois, c'est aussi de l'argent. Mais pour canaliser l'argent qui provient en tant que revenu de ces propriétés-là vers des bénéficiaires. Donc, tout cela est, pour ce qui concerne les fondations dans le monde musulman, qui comprend aussi des fondations chrétiennes et juives, en passant, je l'ai dit, aussi. Ces fondations-là sont encadrées par une jurisprudence religieuse et une jurisprudence étatique, mais aussi une jurisprudence ou des droits coutumiers. Je peux aller plus tard dans les détails tout à l'heure, mais je dis ça pour le moment. La chose qui est très importante, j'avais publié en 2002 un article là-dessus, donc bien avant la genèse de ce programme. La chose que j'aimerais dire au tout début, et je pense que Moussa il va en revenir, c'est que on appelle ça gender blind en ce qui concerne la création des fondations. En ce qui concerne la création de ces fondations WACF en termes musulmanes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence, ce n'est pas toujours le cas pour autre chose, il n'y a aucune différence que ce soit une femme ou un homme qui crée des fondations. Il n'y a aucune différence si c'est une femme ou un homme, tout ceci c'est dans la jurisprudence religieuse et étatique. Aucune différence en ce qui concerne le genre de l'individu qui gère ces propriétés-là, qui gère les fondations. Et également, aucune différence dans la théorie des bénéficiaires. Donc, femmes et hommes, féminins, masculins, bénéficiaires féminins, masculins, des descendants d'un fondateur ou d'une fondatrice, devraient pouvoir toucher exactement les mêmes revenus dans la théorie. En pratique, ce n'est pas toujours la même chose. C'est le fondateur ou la fondatrice à libre arbitre complètement, et tout ceci encadré par le droit, à libre arbitre de choisir le bénéficiaire. Nous avons des exemples des fondations où le fondateur ou la fondatrice décide que ce sera seulement ses descendantes féminines qui vont le recevoir. Et il y a des raisons spécifiques pour cela. Et nous avons également des exemples où il n'y a que des hommes, ou que des garçons, ou que des descendants masculins. Les deux cas de figure sont tout à fait possibles, nous l'avons dans les documents que nous étudions. Nous avons également beaucoup d'exemples en provenant de ces documents, dont je ne vais pas parler aujourd'hui vraiment, mais de ces documents dans lesquels nous voyons que les bénéficiaires les parts des bénéficiaires, les revenus sont divisés comme avec un héritage, c'est-à-dire que les garçons ou les hommes qui vont recevoir des revenus ont deux fois la part de leur sœur ou des descendantes ou des bénéficiaires féminins ou féminines. Tout cas de figure est tout à fait possible. Mais on revient à ce terme, à cette idée de gender blind, c'est-à-dire que la loi ne fait aucune différence, la loi dite musulmane, la jurisprudence musulmane, ne fait aucune différence entre genres. Et ça, c'est très important à noter, parce que ce n'est pas toujours dans l'esprit, disons, des personnes qui ne connaissent pas cette partie du monde. Également, je dirais que, dès le début, que les fondateurs et les fondatrices de ces fondations WACF ou Habous, ont exactement la liberté totale de choisir non seulement des bénéficiaires, mais de choisir les propriétés. Donc, qui est aujourd'hui le centre de notre intérêt, de choisir les propriétés qui sont possédées en pleine propriété, mais choisir les propriétés qui vont faire partie de leur fondation, et cela à titre permanent. A priori, une fois qu'on crée une fondation avec une propriété, cette propriété-là va faire partie des avoirs de la fondation à perpétuité, c'est comme ça on le dit. Je peux dire beaucoup de choses là-dessus également, parce qu'il y a plein d'exemples où il y a une mobilité de cette propriété. On peut le vendre, on peut le louer à long terme, ou il va rentrer dans l'héritage du locataire. Et ici aussi, nous avons la question du genre. Je vous donne un aperçu rapide, mais nous avons la question du genre aussi vis-à-vis des locataires. Parce que toute cette documentation nous donne les informations, est-ce que c'est une femme ou c'est un homme qui loue ses propriétés, pour combien de temps, dans quel cadre exactement, combien est la location, soit mensuelle, soit annuelle, est-ce que c'est payé en monétairement, ou est-ce que c'est payé parfois ou très souvent en nature, surtout quand ceci concerne propriété agricole, etc. Donc, je vais juste dire cela en guise d'ouverture au sujet. Je reviens à cette structure de GDRI, groupe de recherche, groupement de recherche international, qui nous a permis, neuf partenaires, qui nous a permis de rentrer dans des sujets, dans ce cadre des études sur les fondations, de rentrer dans des cadres très différents, interdisciplinaires, dont très souvent qui portent sur la structure légale. Et là, je reviens à ce numéro de Hawa qui avait publié six ou plusieurs travaux, plusieurs recherches qui étaient menées dans le cadre de ce GDRI, mais aussi une dernière recherche par Sylvette Deneuf qui nous permettent de regarder de manière comparatiste les questions sur lesquelles nous avions travaillé pendant 4 ans. Et là, je vais le faire.
Ok. Ouais. Est-ce que tu peux dire quelle est l'origine de cette revue
alors? Oui. Là, après, je reviens à ce GDRI pour finir. Alors, Hawa. Hawa, c'est la revue des femmes dans le monde, comment on dit, dans le monde du Moyen-Orient qui concerne l'Afrique, enfin le nord de l'Afrique, mais aussi subsaharien, mais surtout le Maghreb. Ensuite, le Moyen-Orient, donc le Proche-Orient et la Turquie. Et nous travaillons également dans la revue de Hawa sur les communautés musulmanes qui vivent en dehors de la région du Moyen-Orient d'aujourd'hui. Alors l'origine, c'était, je crois que c'était 2002-2001, il y a une chercheuse égyptienne qui s'appelle Amira Sambol, qui est venue ici à plusieurs reprises et avec laquelle on a travaillé dans le cadre de ce projet et pas ailleurs. Amira Sambol a beaucoup travaillé, elle est chercheuse, elle est historienne, travaille sur l'Égypte 18e, 19e, 20e siècle. Et elle a travaillé, entre autres, sur des questions des femmes et propriétés, entre autres. Elle était contactée par Brill, qui lui a demandé de réfléchir sur la possibilité de créer une revue comme cela, de créer une revue sur le Moyen-Orient et les femmes. Et donc, elle a réfléchi d'une chose à l'autre et elle a décidé de se lancer dans ce projet. Donc, ce projet a plus de 15 ans, la revue fonctionne, c'est une revue trimestrielle et ça fonctionne depuis, si je ne me trompe pas, 2001. Je crois que c'est 2001 ou 2000, quelque chose comme ça.
C'est le volume 15.
15, c'est le volume, oui. Mais je crois que c'est ça, c'est 2001 ou 2000. Et donc, international dans la mesure où elle a tenu dès le début que ce soit publié non seulement en anglais, mais aussi en français. D'autant plus qu'il y a beaucoup de chercheurs au Moyen-Orient, surtout au Maghreb, qui travaillent en français. Et nous avons, donc moi je travaille avec Amira dès le début avec cette revue, avec le comité de pilotage. Et voilà, donc c'est une revue qui a une grande ambition aussi d'être interdisciplinaire, non seulement interdisciplinaire, mais comme je l'avais dit aussi, polyglotte. Peut-être une autre fois, il y aura un numéro, là c'est en français et en anglais, mais d'avoir un numéro en espagnol, en italien, pourquoi pas en turc. Pour le moment, c'est plutôt lettres latines, pour des raisons logistiques. Mais en tant que revue européenne aussi, c'est très important que ce ne sera pas seulement en anglais. Oui. Et donc l'origine, c'est cela. Et Amira, c'est elle qui a dirigé le numéro, enfin toute la revue, jusqu'à il y a 2 ans. Et après, c'est Rogaya Aboucharef de l'Université de Georgetown et moi-même. Donc on dirige ça. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je finis cette petite introduction en revenant à ce GDRI, parce que c'est dans le cadre de ce GDRI que nous avions travaillé beaucoup sur des questions de genre, loi et droit de propriété. Et donc, nous étions trois unités françaises nationales, c'est-à-dire Aix-Marseille Université, CNRS, TNM. Ensuite, nous avions eu comme partenaire, 2012-2016, l'École des hautes études, ISEM, à Paris, où nous avons tenu un séminaire mensuel sur des questions des fondations religieuses. Ces fondations-là, donc je viens de faire un tour rapide, et nous allons continuer, j'espère, avec Moussa Srour, Berzeit University. Nous allons continuer peut-être 2018-2019, mais ici à Aix. On a fait 6 ans à Paris, à l'École des hautes études, et j'espère que ce sera quelque chose qui va continuer. Ensuite, en ce qui concerne des partenaires français, nous avons eu IFPO, donc Institut français du Proche-Orient. Mais à vrai dire, il y avait des personnes qui travaillaient sur des fondations, mais le temps qu'on a lancé ce projet, ces personnes-là, il y avait un certain nombre quand même avec qui on a travaillé, mais ces personnes-là ont fini leur mandat à l'IFPO et ils sont partis ailleurs. Donc il y avait un certain nombre de chercheurs pressentis avec qui on a voulu travailler, mais qui n'étaient plus là, mais tout de même, on a eu quand même 3 ou 4 personnes avec qui on a travaillé à l'IFPO. Ensuite, les 6 membres institutionnels étrangers, vous le voyez ici, en ordre alphabétique, nous avons travaillé en tant que partenaires à temps complet et aussi de manière financière, c'est-à-dire que le CNRS a donné de l'argent dans le projet, dans ce GDRI, mais que chaque université, que vous le voyez là aussi, soit participé financièrement par des billets d'avion ou a créé aussi des ateliers, des séminaires ou des plénières sur place. Donc c'était ça l'idée de créer ce réseau, institutionnaliser le réseau autour d'un projet quelconque pour nous, autour du projet des fondations pieuses. Donc avec l'Algérie, c'était l'université d'Alger, avec Zakir Zahra, l'université de Mascara, Ouden Bouroufala, qui avait organisé un colloque. Au Japon, de Toyo Banco avec Tora Miura. Également, c'était fin 2015, il avait organisé une plénière. Malaisie, avec Murat Cizakça, d'origine turque, donc il est pas malais, mais il était prof, il est à la retraite maintenant, il était prof à INSEF, qui est un centre, comme une université, un institut pour les études sur la jurisprudence musulmane et autres. Palestine, Université Berzeit, Moussa Srour, ici présent, qui prendra la parole tout de suite. Et les 2 derniers, en Tunisie, une unité de recherche créée et dirigée jusqu'à il y a 2 ans par Abdelhamid Hania, de la Centre d'études maghrébines, qui avait lancé en fait avec nous, qui a lancé le projet avec nous en 2012. C'était notre première rencontre a eu lieu là-bas pour créer une base de données sur laquelle nous travaillons en ce moment. Et ensuite, l'université Zayed aux Émirats avec Tarek Abdallah, qui a également participé à plusieurs manifestations. Donc je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus, je vous montre simplement que nous avions eu des rencontres à chacun ou chacune de ces universités d'une manière ou d'une autre. Et il y a également des publications soit en cours ou qui ont déjà paru par ceci. Alors, je viens de faire passer ici le numéro de Hawa. Il y a 2 mois, un mois et demi, que le numéro a été publié, genre loi et droit de propriété au Moyen-Orient. Et si vous le voyez ici à gauche, la table de matière, que c'est très historique, c'est très historien, mais en même temps, nous allons jusqu'à l'époque actuelle. dans ce numéro-là, il ne va en avoir d'autres, mais dans ce numéro, c'est organisé, nous avons organisé selon un peu l'époque et les lieux. Donc le premier, avec 3 articles sur le monde, ou les mondes ottomans et safavides, de ce fait, nous travaillons également sur le monde chiite dans le cadre de genre loi et droit de propriété. Ensuite, la période moderne et contemporaine, avec une étude très très intéressante sur Istanbul, aussi du point de vue des documents, une étude documentaire. Je ne l'avais pas dit ça tout à l'heure, mais c'est une recherche qui tient très près des documents aussi, et ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais arrêter cela ici en passant la parole à Moussa Sloul, parce que je vois que le temps passe, il faut toujours revenir.